Extrait du journal de bord du Quo Vadis. Capitaine Freya Eastcott. Année terrestre 2734. Archives numériques consultées pour la dernière fois en l'an 2830. Il m'arrive encore de rêver de la Terre, de moins en moins souvent. Pourtant, comme un mort encombrant dont le fantôme n'est pas en paix, elle ne cessera jamais de nous hanter. Est-ce parce qu'elle a fini si tristement, si maudite? Je revois parfois la planète semi-abandonnée des dernières années, l'air saturé de particules, les hommes et les femmes se traînant avec des masques de plus en plus lourds, les cités en ruine, la nature malade, les animaux brûlant dans des incendies ou tombant comme des mouches lors des épidémies. J'aimerais parvenir à rêver de la Terre d'avant, celle que je n'ai pas vraiment connue, autrement que dans les images de synthèse des fictions virtuelles. J'ai parfois l'impression que c'est justement parce que nous l'avons connue sans la connaître que nous ne parvenons pas à en faire le deuil. Ou bien ce deuil est peut-être tout simplement trop grand pour un simple cœur humain. Peut-être qu'aucun d'entre nous n'aura jamais la force intérieure de faire le deuil de la Terre. Peut-être la seule espérance réside-t-elle dans nos enfants, qui n'auront pas besoin de faire ce deuil parce qu'ils n'auront connu que notre minuscule vaisseau à la dérive. Chapitre 3. Conseil des clés. Calendrier organique, an 589. Le vaisseau avait atterri sur un plateau qui dominait la vallée à l'ouest et formait vers le nord le contrefort d'une montagne ancienne aux formes arrondies. Niché là, le géant couleur de nuit qui reflétait parfois le flamboiement du couchant ou l'obscure clarté des étoiles demeurerait à jamais immobile. Il avait traversé les années et l'espace pour finir à cette place particulière de l'univers. Avec la majesté d'une pyramide antique, il dominait de sa hauteur fabuleuse les constructions de bois, de torchis et de pierres qui avaient poussé à ses pieds et couvert bientôt non seulement le plateau, mais la pente douce qui menait à la vallée ainsi que les bords du fleuve. Non pas jusqu'à perte de vue, car l'organe inviolé les enveloppait de toutes parts, mais assez loin. Au nord, la montagne vierge leur faisait de l'ombre jusqu'à la mi-journée. Au sud, la forêt profonde dévoilait au fil des saisons la palette de ses couleurs, le vert, le cuivre, l'or, la rouille, comme un immense pelage frissonnant. À l'ouest, la mer aux teintes bleues, tirant parfois sur le mauve, offrait le spectacle de sa houle puissante, et de loin en loin, la féerie des animaux marins qui sautaient hors de l'eau. Foudre était arrivée tôt, bien avant l'heure du conseil. Elle se dirigeait d'un pas mesuré vers le vaisseau. Celui-ci, comme un bulbe nourricier, était la racine de la ville, qui avait poussé sur ses parois éventrées, en prolongement de ses lignes, dans un déploiement de ses espaces internes. Le vaisseau n'était ni fermé, ni délimité. Lorsqu'on s'en approchait, une ruelle débouchait soudain sur une coursive d'aluminium ou de carbone. L'arrière-salle d'un bâtiment ouvrait sur un ascenseur immobile. Une façade de pierre ou de bois sculpté donnait accès à un hall gigantesque, un hangar ou une salle des moteurs. Tout ce qui avait pu servir pour la construction avait été consciencieusement pillé. Tout, c'est-à-dire les outils bien sûr, mais aussi les matériaux, des pans de mur jusqu'aux barres de métal, en passant par les vis, les portes, les panneaux. Mais certaines salles, comme celle où Foudre se rendait, avaient été conservées intactes, presque religieusement, et demeuraient libres d'accès. Les profondeurs du vaisseau, très sombres, dans lesquelles il fallait s'éclairer à la torche, n'attiraient pas beaucoup de monde cependant. On savait qu'on venait de là, de cette construction obscure et froide au toucher, de ce labyrinthe démesuré que n'altérait pas le passage du temps. On le savait, mais on se tournait résolument vers l'extérieur, la lumière, la mer et la forêt. La destination avait depuis longtemps supplanté l'origine dans le cœur des hommes et des femmes de l'organe. Foudre traversa avec plaisir les rues de la ville, où elle n'allait pas très souvent. Les rues bruissaient d'activité dans l'air frais du matin. Des enfants étaient occupés à ramasser des œufs et accessoirement à faire volter et caqueter les poules dans les enclos. On sentait des effluves de lessive, de pâtes en train de cuire, de feu de bois. Jusqu'à maintenant, elle avait réussi à conserver un relatif anonymat hors de son clan, mais elle remarqua que depuis qu'elle portait un tatouage facial, les regards se détournaient avec respect. Les jeunes gens ne la suivaient plus des yeux, et les jeunes filles ne lui souriaient plus d'un air de complicité. Même les personnes âgées lui adressaient des petits signes de déférence. Son corps tout à coup n'était plus un corps normal, mais une icône. Il était investi d'une puissance symbolique, il devenait un signifiant, un vecteur. Lorsqu'elle se trouvait dans la solitude de son jardin, plongée dans le silence de l'organe, et lorsqu'elle se trouvait avec son clan, cela ne la dérangeait pas. Mais ici, dans la ville, il lui semblait mesurer tout ce à quoi elle avait renoncé en acceptant d'être clé de voûte. Elle savait que cette impression lui passerait tout à l'heure, au conseil, parmi les siens. Elle savait aussi que cette partie d'elle-même qui gémissait sous le fardeau des douleurs, qui était en deuil des enfants qu'elle ne pouvait avoir et qui aspirait à la légèreté, pouvait être muselée temporairement, mais ne serait jamais abattue. Elle se manifesterait. Elle se révolterait à chaque occasion, et elle devrait continuer à lui faire une place, à entendre sa voix et à consoler sa détresse. Elle s'arrêta à l'étal d'une boulangerie et choisit un petit pain au fromage dont elle était particulièrement friande. Elle ne le paya pas, car les clés, par tradition, ne manipulaient aucun argent. Puis elle s'arrêta chez un herboriste qui était en train de préparer un onguent. « Bonjour, ma chère, » lui dit l'homme en souriant. « Vous avez le temps de vous arrêter pour que je vous parle de mes dernières créations ?» Foudre avait l'intention de se rendre à la bibliothèque, mais elle était curieuse. Il y avait dans la vitrine des plantes qu'elle ne connaissait pas. « J'ai fait une expédition très intéressante le mois dernier, et j'ai trouvé ces espèces de graminées. En aviez-vous déjà vu ?»« Non, justement, elles m'intriguent. » »« Vous savez que j'ai l'estomac bien pavé. Je les ai essayées sur moi-même, en fumée, en décoction et en onguent. » Ont-elles des vertus ? Toutes les plantes ont des vertus. Le tout est de trouver lesquelles. Celles-ci me paraissent intéressantes pour une clé de voûte. En onguent, elles permettent de soulager les brûlures, et si vous les ingérez, elles vous donnent un coup de fouet qui dure quelques heures. Vous savez que je ne suis pas censée soulager mes douleurs. Je ne parlais pas des vôtres, bien sûr, mais rien ne vous interdit de vous donner un coup de fouet. Je veux bien essayer, dit-elle. Vous pouvez m'en donner un pot ? Bien sûr. Je ne vous conseille pas de les faire infuser, elles ont un goût très désagréable, mais vous pouvez les avaler directement avec de l'eau. Êtes-vous intéressé par mon ouvrage sur les plantes de la forêt ? Foudre jeta un œil sur le carnet que lui montrait l'herboriste. Il s'agissait d'un objet plus difficile à obtenir qu'un pot d'herbe ou un pain au fromage. Elle songea au travail nécessité par la fabrication du papier, l'utilisation de l'imprimerie et les recherches médicinales dont ces quelques pages étaient la somme. « C'est un livre précieux, dit-elle, les yeux brillants. Je ne suis pas encore très douée dans ce domaine, il me serait d'une grande aide. Eh bien, prenez-le. Croyez-vous que je l'ai écrit pour le conserver dans mon officine ? C'est un honneur de le donner à une clé de voûte. De quel clan êtes-vous ? Du clan de la brume. » Foudre feuilleta le livre. « C'est vous qui avez dessiné les planches botaniques ? Oui, répondit l'herboriste avec fierté. C'est un travail splendide. » Elle remercia l'herboriste du clan de la brume et continua son chemin. Il y avait quelques vélos qui circulaient dans les rues, certains tirant des petites carrioles, mais la plupart des gens marchaient à pied. Elle passa devant une école de musique, où des adolescents s'entraînaient sur des sortes de guitares, ainsi que sur des percussions diverses et des flûtes. Il lui était arrivé de s'arrêter pour écouter une répétition au passage, mais pour l'heure la cacophonie était telle qu'elle pressa plutôt le pas. Aux abords immédiats du vaisseau, l'animation diminuait, et, elle ne savait pourquoi, les bruits paraissaient étouffés. Le vaisseau était un bloc de silence, compact, au cœur de la ville, et on franchissait son seuil avec une sensation un peu étrange qui ne lui déplaisait pas. Elle se saisit de l'une des torches laissées à la disposition des visiteurs, l'alluma à une vasque d'huile qui nourrissait une petite flamme et pénétra dans l'une des artères principales du vaisseau. La torche se révélait pour le moment inutile, car la large ouverture laissait encore filtrer la lumière du matin. Mais en s'enfonçant de quelques mètres dans les entrailles du géant, un changement subtil s'opérait dans le décor. Il ne s'agissait pas seulement de l'obscurité qui s'intensifiait, mais également de l'impression grandissante de circuler, non plus dans un objet technologique, mais dans une grotte aux parois noyées d'ombre ou dans un temple primordial. Elle progressa quelques minutes avant de trouver l'accès à la bibliothèque. Conçue comme une sorte de sphère, dont on sillonnait les parois internes grâce à des passerelles et à des escaliers mobiles, cette vaste salle était toujours pleine et relativement bien éclairée. Les ingénieurs, les architectes avaient toujours quelque chose à y consulter. Les rayons de littérature, quant à eux, étaient beaucoup moins fréquentés. Foudre regardait toujours avec regret les écrans muets, des ordinateurs et autres écrans portatifs qui dormaient d'un sommeil centenaire et qui avaient dû contenir une énorme quantité d'informations. Les seules qui avaient échappé au naufrage étaient celles qui étaient imprimées sur papier. Un papier presque inaltérable, dont Foudre admirait toujours le grain parfait. Cette bibliothèque avait été conçue comme un tombeau, avec des matériaux faits pour défier l'éternité. Le tombeau de toute une civilisation, de sa puissance, de sa science, de sa démesure, de son art, de sa philosophie, de sa fureur créatrice et destructrice. Cela emplissait Foudre d'une nostalgie sans nom, car il n'existe pas de mots pour décrire ce sentiment qui vous assaille devant le passage des siècles et les égarements de l'espèce. Ce qui reposait là, dans ces rayonnages où l'espoir de survivre avait imprimé l'obsession de l'exhaustivité, c'était un testament non pas anonyme, mais collectif, un legs surhumain. Foudre s'attristait de voir que les habitants de l'organe s'en désintéressaient de plus en plus. Une fois récupérées les techniques les plus usuelles, ils avaient tourné le dos aux erreurs du passé, résolument, avec toute la fraîcheur que leur donnait cette planète neuve, luxuriante et vivante. Qu'avaient à leur apprendre les hommes qui avaient mené la Terre à la ruine? Foudre, elle, avait passé de nombreuses heures depuis son enfance à lire des centaines de récits de tous les continents et de toutes les époques de la Terre. La Terre existait dans son imaginaire avec l'incroyable précision des civilisations disparues. La littérature avait fabriqué des mondes, aussi bien vraisemblables que totalement imaginaires. Mais les civilisations disparues possédaient une caractéristique inaccessible à la fiction. Une œuvre de fiction était presque toujours issue du cerveau d'un seul auteur, et on y trouvait de ce fait une sorte de cohérence interne, une homogénéité, une harmonie, une esthétique parfois, qui n'existait pas dans le réel. Le réel était plein d'aspérités, de contradictions et d'incohérences. La Terre, dans la finitude de son histoire, représentait un monde inracontable et chaotique. Il y avait la même différence, dans l'imagination, entre une œuvre de fiction et une civilisation disparue, qu'entre un jardin ordonné et un paysage accidenté. Le paysage accidenté était par nature imprévisible et recélait toutes sortes de traces et d'éléments qui défiaient la compréhension. Et c'était pourquoi, avec le temps, Foudre s'était de plus en plus intéressé à l'histoire et avait fini par délaisser la fiction. Ces derniers temps, elle lisait et relisait le journal de bord du Courvadis. Cette lecture était l'une des plus populaires et chaque enfant de l'organe en étudiait des extraits. L'équipage et les passagers du Courvadis étaient leurs ancêtres directs et formaient le dernier maillon de la chaîne qui les reliait au reste de l'humanité. Elle avait envie aujourd'hui de relire un passage précis et mit quelque temps à le retrouver dans l'architecture familière du texte. Il s'agissait du passage qui concernait la genèse des liens organiques. Cela fait maintenant trop de fois que mon impression se confirme. Cette impression que j'ai rejetée à chaque fois parce qu'elle ne correspondait pas à ce que je savais de l'être humain. Je dois maintenant lui faire une place dans ce livre. Le réel, c'est ce qui surgit et ce qui s'impose. Et selon cette définition, ce que je m'apprête à décrire est absolument réel. J'ai expérimenté moi-même, plus d'une fois, un phénomène étrange pour lequel je dois bien choisir mes mots. Il m'a semblé être averti, parfois, d'une catastrophe qui se passait à bord, à l'autre bout du vaisseau. Cela est arrivé à deux reprises, lorsque le feu s'est déclaré dans la section du conditionnement de l'air et lors de l'accident de la portière externe, lorsqu'une partie du hangar a été brutalement dépressurisée. Dans les deux cas, j'ai senti comme une onde de panique, quelque chose qui émanait non d'un seul être, mais de plusieurs, et qui se propageait à travers l'espace à la manière d'un son, sans être pourtant perceptible sur aucune fréquence hertzienne. J'ai cru longtemps que j'avais, d'une certaine manière, entendu les cris, les clameurs, un peu à la manière dont certains animaux percevaient les ultrasons sur la Terre. Mais personne d'autre que moi ne l'a entendu. Et si j'y réfléchis, il ne s'agissait pas d'un son à proprement parler. Ce que j'ai appelé une onde de panique m'a affectée plus directement. Elle m'a contaminée et paniquée à mon tour, avant même de savoir pourquoi j'étais moi-même dans un état proche du malaise, avec une décharge d'adrénaline et une crise de tachycardie. J'ai laissé ces deux expériences de côté, sans y réfléchir plus avant, pendant longtemps. Et puis j'ai été père, et j'ai été témoin d'un phénomène similaire. Lorsque ma fille était toute petite, elle a développé une maladie respiratoire. Une nuit, elle a toussé si fort qu'elle a vomi, et ayant roulé sur le ventre, elle était en train de s'étouffer lorsque ma femme a bondi hors de la couchette et a traversé sans un mot, mais avec une rapidité surprenante, l'espace qui nous séparait d'elle. Ma femme a secouru notre fille juste à temps. La petite a mis bien du temps à retrouver son souffle. Et moi, je me demandais par quel processus miraculeux, par quel lien invisible, l'étouffement du bébé avait été ressenti par ma femme au point de l'éveiller en plein milieu de la nuit. Comment la sensation d'urgence était capable de se communiquer, comme par télépathie, là où le son et la vue ne passaient pas. Depuis ce jour, je suis resté attentif à l'apparition de ce phénomène. Il me semble, au vu des situations que j'ai collectées, que la capacité à émettre ce que j'appellerais un signal d'urgence semble plus grande chez les enfants. Pour être tout à fait exact, elle semble plus répandue chez les personnes qui sont nées à bord du Quo Vadis. Je ne saurais l'expliquer, mais il me semble que l'on peut dégager cette récurrence statistique. Ensuite, les phénomènes de communication de la sensation d'urgence sont facilités lorsque les personnes ont un lien fort, comme un bébé et sa mère, ou des collègues de travail habitués à compter l'un sur l'autre pour leur sécurité, ou encore des amants. La réceptivité, quant à elle, semble légèrement plus fréquente chez les femmes. Mais toutes ces observations doivent être organisées en un véritable protocole scientifique, ou nous passerons à côté de quelque chose qui est peut-être une évolution majeure des capacités humaines. La question que je me pose n'est cependant pas « comment cette capacité s'est-elle développée ?» mais plutôt « à quoi devons-nous l'employer ?» Comme toujours, Foudre ressentait un profond respect pour Rhizome. Elle regretta un peu de ne pas l'avoir connu personnellement. Quand elle sortit du vaisseau, la tête encore pleine d'images de cette traversée aventureuse du Quo Vadis, elle se sentit émue par la carcasse inerte, couleur de nuit, tout autour d'elle. En débouchant à l'air libre, mue par une sorte d'instinct, elle leva la tête et fut heureuse de voir le petit point d'argent se mouvoir avec une régularité rassurante dans le ciel. Le temps pressait un peu cependant, car il lui fallait une trentaine de minutes pour rejoindre la salle du conseil. Durant l'été, le conseil des clés se tenait sur la terrasse de l'ouest, qui donnait sur la vallée et sur la mer, et d'où l'on avait l'une des plus belles vues sur le vaisseau. Les arbres, aux troncs nus, disposés en quinconce, formaient une colonnade végétale. Les troncs variés, qui faisaient tous une dizaine de mètres de haut, noueux ou lisses, bruns ou blancs, luisants, rugueux, larges ou menus, soutenaient un vaste feuillage, artistement taillé, d'une régularité parfaite. Au centre, des sièges de bois étaient disposés circulairement, et les quelques 300 clés de voûte venaient s'y asseoir, parler et débattre sur les sujets d'intérêt général. Tout comme les arbres, chacun d'une essence différente, les clés de voûte affichaient une prodigieuse diversité. Certaines avaient grossi, de manière à emplir l'espace de leur stature. D'autres avaient presque perdu leurs traits humains sous le nombre des tatouages faciaux. Hommes, femmes, vieillards, visage presque enfant, irradiant la joie de vivre ou la souffrance, ils soutenaient le monde humain, chacun à leur manière, chacun à leur échelle. Foudre, qui connaissait presque tout le monde, faisait des signes de la main et prononçait des salutations rapides, mais elle cherchait des yeux son ami Torrent, un jeune homme aux traits fins, à la police et imberbe. Elle sourit lorsqu'elle le trouva, car il était en train de la dévisager avec une moue amusée et séduite. Foudre s'installa à côté de lui. Légèrement plus âgé qu'elle, il venait du clan où elle avait grandi, le clan de la Sève. Les deux enfants s'étaient courus après lors des fêtes du clan. Adolescents, ils avaient échangé des caresses d'adultes. À l'âge adulte, Torrent avait décidé de devenir une clé, et Foudre, quelques années plus tard, autant par esprit d'indépendance que pour ne pas le perdre tout à fait, lui avait emboîté le pas. Cela s'était trouvé par hasard. Sa nature indépendante et empathique, sa grande intelligence sociale, sa maîtrise des émotions, son sens moral, lui donnaient toutes les qualités requises pour soutenir un clan. Elle avait hérité presque tout de suite d'un clan assez nombreux à la mort de Printemps, et depuis 4 ans, elle s'acquittait assez paisiblement de sa tâche. Son clan l'aimait, et il n'y avait jamais eu de problème grave dans sa gestion humaine. Le contraire arrivait, bien sûr, de temps en temps. Certaines clés ne supportaient pas la douleur, se laissaient submerger par la tâche et menaient le clan dans une spirale de souffrance. Certaines clés profitaient de leur ascendant sur le clan pour créer autour d'elles un culte de la personnalité. Certaines autres brisaient les liens en enfantant. Le système avait ses ratés, ses défauts, ses dérives, mais les habitants de l'organe s'en satisfaisaient, car il était fondé sur une solidarité charnelle, physique, irréfragable. Il était impossible qu'une clé de voûte exploite la souffrance de son clan pour son bénéfice personnel, car la souffrance de son clan était sa propre souffrance. L'exploitation de l'homme par l'homme était devenue physiquement impossible, et ce principe qui garantissait que les erreurs commises sur la terre ne se répéteraient pas sur l'organe leur paraissait, à tous, absolument sacré. Comme toujours, Torrent fit glisser sur elle son regard caressant, un peu rieur, avant de la saluer. Son arrivée venait d'interrompre une conversation entre lui et Ambre, qui la salua aussi. « Foudre, ma chère, cela fait trop longtemps. »« Depuis le dernier conseil, confirma-t-elle. Comment va ton clan ?» Torrent soupira d'un air comique. « J'ai connu des jours meilleurs. Je souffre du cou, de la gorge et du dos, quasiment en permanence et de manière assez intense. Et je te passe les petites douleurs voyageuses qui vont et viennent. » Ne me parle pas de douleur, je ne sens plus mon pied après cette marche interminable. » En disant ces mots, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Brouillard, qui entamerait bientôt son ultime calvaire. Ambre, qui était un peu plus âgée qu'eux, éclata de rire. « Écoutez-vous, on dirait des vieillards. Un jour vous aurez vos propres douleurs à supporter en plus de celles des autres, et c'est là que les choses vont se corser. Connaît-on l'ordre du jour ?» Torrent lui tendit une tablette de cire qu'elle parcourut rapidement. Le conseil aujourd'hui devait examiner 3 questions. D'abord, celle de l'augmentation démographique. Le système de prise de décision, qui commençait à devenir assez lourd, pouvait-il perdurer au-delà d'un certain nombre de clés? Ils étaient déjà 300, et l'obtention d'un consensus prenait parfois plusieurs heures pour la moindre question. N'était-il pas temps de réfléchir à une autre organisation du conseil? Ensuite venait la question de la répartition des travaux urbains entre les clans. La répartition précédente surchargeait le clan de Londres et nécessitait un réajustement. Enfin, il faudrait discuter de l'orientation diplomatique à donner à la rencontre prévue avec la délégation de la sonde. Comment devait-on accueillir les visiteurs et à quelles informations devait-on leur donner accès ? « J'aimerais tellement faire partie du comité qui va les recevoir, souffla Foudre. »« Vraiment ? » demanda Torrent. « Pourquoi ?»« Je ne sais pas, cela me fascine. » Je voudrais leur poser des centaines de questions. » Torrent lui sourit, puis approcha ses lèvres de son oreille et murmura « Es-tu fertile aujourd'hui ?» Foudre le considéra avec un sourire faussement étonné. La tension sexuelle n'avait jamais vraiment cessé entre deux, depuis les jours bénis de leur adolescence dans les replis secrets de l'organe, lorsque leur corps jeune et vierge ne souffrait d'aucune douleur et n'était lié à personne. Elle s'était parfois demandé ce qui serait advenu s'ils avaient conçu un enfant à l'époque. Probablement seraient-ils aujourd'hui mariés. Ils seraient devenus des travailleurs chargés de famille, au sein d'un même clan. Elle ne savait pas si cette évocation la rendait nostalgique. Cela n'était pas arrivé, tout simplement, et seule la réalité avait quelque consistance. « Non, je ne suis pas fertile aujourd'hui, » répondit-elle en chuchotant dans son oreille. Torrent la regarda au fond des yeux. Elle savait qu'il souhaitait la rejoindre après le conseil, comme il le faisait souvent. Elle imagina, en une fraction de seconde, la sensation de se trouver nue sous ses mains, et se souvint de toutes les mains qu'il avait touchées et pénétrées lors de la cérémonie de l'aiguille. Quelque chose frissonna en elle, et de son geste familier et affectueux, elle lui ferma la bouche, comme pour suspendre leur désir. Les discussions commencèrent et les deux jeunes gens, à l'unisson de toutes les clés de voûte, prirent vivement part au débat. Au conseil, il n'y avait pas un chef, mais 300. C'étaient les règles de parole, intériorisées depuis longtemps, qui leur permettaient d'avancer collectivement dans cet improbable dialogue. La première règle était de ne prendre la parole que lorsqu'on n'était pas d'accord, ou lorsqu'on faisait au groupe une nouvelle proposition. Ainsi, le consensus était obtenu par le silence. La seconde règle était de ne jamais répéter un argument et de ne jamais réitérer une proposition lorsqu'elle n'avait pas obtenu de consensus. La troisième, de ne pas s'éloigner du sujet. La quatrième, de ne jamais quitter le ton de la courtoisie. La cinquième, de ne jamais abandonner le débat. La parole naissait de multiples foyers à la fois. On commençait à discuter en petits groupes. Et puis, naturellement, lorsque plusieurs personnes tombaient d'accord, une seule continuait à prendre la parole, puisque les autres suivaient la première règle. La plupart des clés de voûte, grâce à cette règle, cessaient de parler rapidement, et le débat finissait par se faire entre une vingtaine de personnes. Lorsqu'une opposition de type thèse-antithèse empêchait d'avancer, la seconde règle poussait à envisager une troisième voie. Les clés de voûte, rompues à l'exercice, avaient l'habitude d'abandonner leurs idées personnelles au profit du consensus collectif. Et, insensiblement, en prenant le temps, les décisions parvenaient à se prendre d'elles-mêmes. Sans leader, sans parti, sans faction et sans vote. Ce fut le cas pour les deux premières questions qui furent tranchées au bout de 3 heures. Un roulement aléatoire serait proposé pour les séances du conseil afin de maintenir le nombre de 300. C'était le clan de l'abeille qui serait chargé de concevoir et de communiquer le roulement pour les 10 conseils à venir. Les travaux urbains furent à nouveau répartis, de manière plus équitable, et Foudre vit enfin arriver le moment où le sujet qui lui tenait à cœur allait être débattu. La clé qui avait été l'interlocuteur du capitaine Egon Richards se tenait debout. C'était une grosse femme, d'une 60aine d'années, énergique et sereine, qui s'appelait Pluie. Ses auditeurs ne partageaient pas, dans leur ensemble, la curiosité enthousiaste de Foudre. Beaucoup avaient peur de cette intrusion et considéraient cette mise sur orbite comme le début d'une tentative de colonisation. La première rencontre avec le capitaine du vaisseau, qui avait été très brève, avait été plutôt rassurante, selon Pluie. Le capitaine Egon Richards ne semblait pas animé d'intentions belliqueuses. Il n'avait rien exigé. Il s'était montré avide d'informations diverses sur leur histoire et sur leur organisation sociale. Il avait lui-même donné des informations que les habitants de l'organe découvraient aujourd'hui avec une stupeur incrédule. Le grand essaimage avait fonctionné beaucoup mieux que prévu. De nombreuses exoplanètes accueillaient maintenant des communautés humaines, certaines minuscules, d'autres plus importantes. L'Union, qui représentait une forme de pouvoir central et surtout qui avait le monopole sur la flotte aérospatiale, avait conservé une base sur Terre. Mais c'était surtout dans l'espace, dans la diaspora de sa flotte toujours en mouvement, que l'Union se déployait, principalement pour collecter des données et des minerais utiles. Il n'y avait jamais eu de rencontre avec une autre forme d'intelligence. Les humains semblaient seuls dans ce gigantesque terrain de jeu. Maintenant que je vous ai donné les informations objectives, j'aimerais vous faire part de mes impressions personnelles. Les clés se turent et prêtèrent une oreille encore plus attentive. Pluie était une femme respectée, sa puissance d'empathie était bien connue jusqu'à l'extérieur de son clan et ses impressions personnelles avaient une valeur indiscutable. À un niveau personnel, cet homme, Egon Richards, m'a paru digne de confiance. J'entends par là qu'il ne paraissait pas avoir d'arrière-pensée guerrière ou directement impérialiste. Sa façon de s'adresser à moi comportait évidemment des éléments de manipulation, comme dans toute situation diplomatique. Mais la manipulation n'était pas le fond de cette entrevue, qui s'est déroulée comme une véritable rencontre. Ceci étant, cet homme m'a également mise très mal à l'aise, par beaucoup d'autres aspects. C'est une personne solitaire et renfermée, quelqu'un de froid, qui maintient une distance physique et critique avec les autres. Sa loyauté envers l'Union m'est apparue, en quelque sorte, comme l'armature de sa psychologie. Mais l'Union est une idée très abstraite. Cette manière de faire corps avec une entité disséminée sur plusieurs années-lumière est aussi étrange que le phénomène religieux et très éloigné de notre conception de la solidarité. Quelques questions fusèrent. Qu'est-ce qui anime ces hommes et ces femmes si loin de chez eux ? Si étrange que cela puisse vous paraître, je pense que c'est la discipline. Le capitaine Richards était vêtu d'un uniforme, et à la façon dont il m'a parlé de l'équipage, il s'agit de toute évidence d'une organisation militaire. L'Union est une flotte, avec une hiérarchie probablement très stricte. Il y eut des murmures étonnés dans la salle. Pourquoi auraient-ils conservé une armée s'ils sont seuls dans l'univers ? À quoi leur sert de voyager dans l'espace ? Cherchent-ils de nouvelles exoplanètes ? Pluie souriait d'un air méditatif. J'ai beaucoup réfléchi à ces questions. À la première, pourquoi ont-ils conservé une armée ? Je répondrai, de manière un peu hasardeuse, qu'ils se raccrochent à ce qu'ils connaissent. L'armée dans la civilisation terrienne a été paradoxalement une institution rassurante. Rassurante ? Mais les armées ne faisaient-elles pas la guerre ? Si, intervint Foudre, mais chaque population se sentait protégée par sa propre armée, en même temps qu'elle se sentait menacée par l'armée des autres. Pluie lui adressa un regard bienveillant. Je vois que nos jeunes gens passent du temps à la bibliothèque, et c'est très important, commenta-t-elle. L'armée offre un cadre strict, non seulement un but à l'existence, mais aussi un rythme, des modalités, une organisation spatiale et sociale. En ce qui concerne la seconde question, à quoi leur sert de voyager dans l'espace ? Je dirais qu'il faut bien justifier cette flotte. Une flotte, ça navigue. Le voyage dans l'espace n'a pas de but en soi. Il est le fonctionnement même de la flotte. Tu veux dire qu'ils ne cherchent rien ? Ils ne cherchent rien, ou ils cherchent tout, ce qui revient au même. Dieu, des extraterrestres, une forme d'énergie nouvelle. Peu importe. Les Terriens avaient ce vieux mythe dans leur Moyen-Âge, le Graal. Tous les chevaliers du royaume devaient chercher le Graal. Ils y consacraient toute leur vie, sans savoir où il se trouvait, ni même ce qu'il était. Le Graal était un condensé de tout ce qui leur manquait. La prospérité, la vie éternelle, la rédemption. Le voyage spatial a, il me semble, la même portée symbolique. Peu importe ce qu'ils cherchent, c'est leur recherche qui les anime. Ils ne chercheront pas à s'installer sur l'organe ? Je ne peux pas répondre à cette question. Le capitaine Egon Richards ne m'a pas paru animé par ce désir. C'est un homme de principe, dévoué à sa quête. Donc, si c'est lui qui décide, je dirais que non. Maintenant, je vous propose de nous restaurer avant de réfléchir à plusieurs questions. Tout d'abord, qui fera partie du comité qui va accueillir leur délégation ? Ensuite, quelles informations nous devons leur communiquer et lesquelles nous devons leur taire, particulièrement en ce qui concerne nos pratiques organiques ? Quelles lignes devons-nous suivre ? Devons-nous leur demander de nous laisser en paix et d'accomplir leurs recherches plus loin ? Devons-nous les accueillir en amis et leur laisser un libre accès dans tous les lieux de la ville, et notamment au vaisseau ? Enfin, il me semble qu'il y a une question encore plus cruciale. Devons-nous profiter de leur venue pour réaliser un bond technologique ? Ou nous en garder ? Envisager qu'ils rechargent l'énergie du vaisseau, ce qui nous permettrait d'accéder à toutes les données des ordinateurs ? Leur demander de nous dire ce qui se trouve de l'autre côté de la montagne ? En un mot, devons-nous utiliser leur technique ? Un silence solennel suivit ces multiples questions. Puis, tout doucement d'abord, comme une eau sourdant tout à la fois de dizaines de points, la parole jaillit, coula, grossit, se répandit de proche en proche. Sous le toit de feuillage qui les dérobait à la vue de la sonde, parmi les arbres centenaires, ces hommes et ces femmes, responsables jusque dans leur chair du bonheur de leur peuple, commençaient un long travail d'accouchement, celui d'une décision politique collective.